RCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Nous sommes depuis le début de la semaine avec le pasteur Alain Patrick. Bonjour, tu vas bien ?
Très bien Annabelle.
Très bien, je sens que de jour en jour tu prends de l'assurance.
Alléluia. Tout à l'heure j'étais impressionnée, les émissions d'avant j'étais impressionnée parce qu'il y avait des femmes.
Ouais. Nous te croyons. En tout cas, on a passé une bonne semaine avec toi. On a vu différentes femmes. On a vu Ève, une femme dont la vie aurait pu être complètement brisée parce qu'elle a eu un départ. Elle a eu un bon départ, en fait. C'est la suite. Ça s'est un peu gâté quand même.
Ouais.
Et elle a perdu ses enfants. C'est une femme qui aurait vraiment pu baisser les bras. Et finalement, on n'en veut plus à Ève. On se dit que ça a été une femme forte et courageuse qui a persévéré. On a vu aussi Déborah qui a été juge en Israël. Et on a vu que les femmes avaient une place dans le service de Dieu. Qu'il y avait des appels qui étaient encore en attente et que le royaume de Dieu a vraiment besoin des femmes. Nous avons vu aussi Anne. Anne qui avait une foi vivante, une foi qui a fait la différence puisqu'elle a pu engendrer Samuel, un prophète extraordinaire. Et puis dans cette émission, tu as prié pour les femmes qui attendaient, qui soupiraient après un enfant. Et hier, on a parlé des femmes méchantes.
Méchantes, hérodiates.
Des femmes méchantes. On avait toutes plein de choses à dire, bizarrement, sur les femmes méchantes.
On était déchaînés, mais déchaînés.
Oui, c'était animé. Hein.
C'était
comme un pic dans la semaine. Et là, aujourd'hui, on va parler de Jeanne. Mm-hmm. De Jeanne. Alors, j'espère que tu as des choses à dire sur Jeanne. Parce que Jeanne, on en parle, c'est une ligne, quoi. Donc,
qui est Jeanne?
C'est Jeanne. J'ai écrit aujourd'hui.
Voilà. Oui. Jeanne, c'était une dame, c'était la femme de Souza. Souza, c'était pas un Béninois ni un Portugais, parce qu'on trouve des Souza chez les Béninois et chez les Portugais. C'était la femme de l'intendant d'Hérode. La particularité de cette dame, c'est qu'elle a pu servir Jésus parce qu'elle faisait partie des femmes qui se baladaient avec Jésus et les apôtres pour pouvoir servir le ministère de Jésus. Et elle avait quand même un mari qui n'était pas adepte de Jésus. Hein. Et on peut penser à ces femmes qui servent le Seigneur à l'église et qui ont des maris inconvertis. Ça peut être des situations très, très embêtantes parce que certaines d'entre elles peuvent vivre des persécutions. Je suis vraiment en train de me demander comment elles faisaient. Je pense qu'il y avait une grâce quand même particulière, hein, c'est-à-dire voyager et laisser son mari et puis aller servir Jésus, les apôtres, aux côtés des autres dames.
Elle donnait aussi.
Elle donnait aussi. Voilà, financièrement aussi. Mmh. Je pense qu'elle faisait partie des personnes qui soutenaient le ministère de Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse profiter de cette occasion pour donner des conseils aux femmes qui ont des maris inconvertis et qui servent le Seigneur.
Dans tes églises, j'imagine que c'est déjà arrivé
plusieurs
fois, ce cas de figure où il y a une femme, elle aime le Seigneur, elle veut servir le Seigneur, mais elle a un mari inconverti. Mmh. Et c'est sûr qu'à un moment donné, on va se retrouver un petit peu entre deux feux parce qu'on a l'amour pour le Seigneur qui nous pousse, mais d'un autre côté, on peut avoir un mari qui est très hostile, même pas hostile, mais bon, c'est sûr, il y a des choix qui vont être difficile à faire en accord ensemble. Oui, ma chérie, vas-y, le dimanche, pendant toute la conférence, va aider, donne ton argent, donne l'argent du foyer. C'est pas forcément des choix qui sont évidents. Alors, toi, qu'est-ce que tu conseilles en tant que pasteur à ces femmes qui vivent ce genre de situation?
Bon, généralement, il y a deux situations. Hein. Il y a des femmes qui n'écoutent pas les conseils qu'on donne et qui vont chercher les inconvertis et qui se retrouvent dans un tel cas de figure. Et il y a des femmes qui se sont converties, elles étaient déjà mariées, et leur mari est resté un converti. Et là, ça peut être un défi pour les deux. Hein. Ça peut être un défi parce que pour ceux qui sont allés chercher leur païen, en griffe, leur inconverti, pour celles qui sont allées chercher leur inconverti, au début, généralement, parfois le gars ou la fille, si c'est l'inverse, lui promet, dit non, je respecte ta foi, je te laisserai aller à l'église, ne t'inquiète pas, je sais que t'es chrétienne, je sais que t'es engagée, mais très souvent, je sais pas, 5 qui vont faire ça, il y a au moins, honnêtement, sans exagérer, il y a au moins 3 ou 4 qui après retournent leur veste. C'est-à-dire que à un moment donné, il commence à se plaindre. Non, ton église là, c'est trop. Non, tu pries trop. Et puis bon, voilà, quand tu pries, écoute, moi, je crois pas trop en Dieu. Et ils retournent complètement leur veste et ça devient compliqué. Et une situation de persécution commence à se créer dans le couple. Et parfois, la femme, elle se relâche si elle n'est pas très forte et affermie. Parfois,
c'est difficile de vivre sa foi.
Ouais, moi j'ai eu des femmes qui sont allées jusqu'au divorce parce que le mari a persécuté. À un moment donné, le mari a dit tu choisis entre Jésus, entre ta foi, ton église et moi, sinon je m'en vais. Mmh. Et voilà, et la femme a laissé partir le mari parce que on lui a demandé de choisir entre le mari et Dieu. Et là, c'est dramatique parce qu'il faut. On veut quand même que le mari se convertisse, hein, et que ce couple-là continue.
Comment on peut faire de façon concrète en tant que
femme mariée,
en tant que femme, oui, pour pouvoir allier les deux? Est-ce qu'il y a des choses à éviter, des choses qui peuvent faire peur aussi au mari qui n'est pas croyant?
Il faut être organisé et faire preuve de beaucoup de sagesse. Je peux donner beaucoup de conseils à ces femmes-là. La première chose, c'est qu'il faut être bien organisé pour pas que leur maison soit délaissée. Elles ne doivent pas délaisser leur maison, elles ne doivent pas délaisser leur mari, elles doivent continuer à s'occuper de leur maison, s'occuper du mari, montrer vraiment de l'amour à l'égard de leur mari, gérer correctement leur temps pour s'impliquer à l'église dans la limite du raisonnable. Il faut pas aller dans les excès. Dès l'instant où elle va dans les excès, ça bousille son témoignage parce que le mari ne comprend pas forcément pourquoi du lundi au dimanche, la femme va rentrer à 23h, minuit, parce que bon, voilà, elle faisait des mini-veillées de prière. Il faut beaucoup de sagesse à ce niveau et beaucoup d'équilibre.
C'est sûr que c'est déjà biaisé, en fait, à la base, parce que les deux ne sont pas dans la même logique de réflexion.
Exactement.
Il y a une personne qui est là et qui, par amour pour Dieu, est prête à faire plusieurs choses. Mmh. Et il y a l'autre qui est tout simplement dans l'incompréhension. Mmh. Et moi, je pense que dans des situations comme ça, les femmes doivent faire preuve de beaucoup d'amour parce qu'il y a aussi le, comme Pasteur Alain disait, il y a aussi le fait qu'on veut que le mari se convertisse. Mm. Ça veut dire que dès l'instant où à partir d'une attitude, il y a des choses qui sont pas bonnes du côté de la femme, non seulement on va pointer le doigt sur toi, mais en plus on va pointer le doigt sur Jésus. Mm. On va pointer le doigt sur le Dieu que tu dis servir. Mm. Et là, ça va soit éloigner vraiment la personne parce qu'en fait, ce sera... Ben là, tu vas à l'église tout le temps, regarde ce que tu me reçois à la maison. Donc, il faut vraiment marcher dans l'amour, manifester un grand amour et puis une grande patience parce que on est dans vraiment deux logiques de réflexion qui sont différentes.
C'est ça, et ça, c'est le deuxième conseil que je voulais donner, faire gaffe à son témoignage à la maison.
Merci.
tu voulais revenir à Hérodiade, c'est ça?
Non, mais ce que je voulais juste renchérir, c'est ce qu'Aurélie disait au fait que quand on est marié avec un inconverti, qu'on l'ait fait en toute connaissance de cause, un choix qu'on est chrétienne ou qu'on ait accepté le Seigneur en étant déjà dans le mariage, ça crée un joug, ça crée un joug étranger, c'est spirituellement qu'on comprend les choses spirituelles. Et c'est certain que c'est vraiment difficile de pouvoir même avoir des sujets de conversation qui se rejoignent et que la vie en général se rejoigne. Parce que moi, je regarde mon mariage, puis je me dis, tout ce qu'on parle, c'est des choses de Dieu. Et je me dis, si moi, j'étais mariée à un inconverti et j'aime le Seigneur de tout mon cœur, tu dis, mais c'est une solitude vraiment très difficile à vivre. Et vraiment, c'est certain que je voudrais de tout mon cœur que mon mari se convertisse. Mais c'est certain que quand la Bible dit de ne pas se mettre sous un joug étranger, si... Après, je suis une enfant de Dieu et que je choisis de me marier avec un inconverti, je devrais le faire en toute connaissance de cause, sachant que ça va déjà partir dans un... C'est comme conflictuel déjà tout de suite en partant, parce qu'on se comprend pas spirituellement.
Et très souvent, moi, je dis, et je l'assume quand je le dis, certaines personnes vont trouver ça dur, mais la Bible dit que les enfants de Dieu sont les fils de Dieu, et les inconvertis, les païens, ce sont les fils du diable. Et je dis souvent que si tu épouses un fils du diable, tu fais de Satan ton beau-père. Et ça peut être dramatique d'avoir le diable pour beau-père. Et certaines personnes certaines personnes trouvent ça dur, mais parfois il faut avoir de tels propos pour essayer de secouer quoi la personne qui veut vraiment le faire. De toutes les façons, le diable aura toujours quelqu'un dans la maison qu'il pourra manipuler pour pouvoir te persécuter et t'atteindre. Ça, c'est sûr.
Ça t'arrive souvent dans tes églises parce que tu as plusieurs...
Très souvent, très, très souvent. Je dis bien, les maris finissent par retourner leur veste. Quand la femme commence à vraiment grandir spirituellement et sérieusement déranger le diable, le diable, il va pas chercher loin. Hein. Il va pas aller prendre le patron de la dame. Hein. Il prend le mari à la maison ou la femme à la maison. Quand elle rentre, tout à coup, le mari dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus tes histoires de l'église, quoi. Et là, le conflit commence.
Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs cas de figure. On peut pas dire qu'il y a un moule... universel du couple où il y a un incroyant et une croyante. Il y a beaucoup de cas de figure. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que même si le mari est quelqu'un de très gentil, très bien et bienveillant, il y en a, j'en connais.
C'est souvent ça au début.
J'en connais. Au début, puis même, j'ai l'exemple d'un couple qui arrive vers les 80 maintenant, même plus de 80.
Ah oui.
Et quand ils se sont mariés, ils étaient dans la mi-vingtaine. Et elle était croyante et très engagée pour Dieu. Et lui n'était pas du tout croyant. Ils se sont quand même mariés... malgré les conseils des pasteurs et même des parents à l'époque, ils étaient encore en vie. Et je reconnais que oui, leur couple a tenu. Le mari a toujours été bienveillant et respectueux. Mais par contre, la femme a dû vraiment espacer ses visites à l'église. Et sa foi, qui était bouillante quand elle avait 25 ans, est devenue... Elle s'est maintenue. Mais elle a jamais pu s'engager autant qu'elle l'aurait fait.
Elle n'a pas grandi spirituellement autant.
Elle n'a pas grandi spirituellement autant. Et moi, je les connais bien tous les deux. C'est des amours tous les deux. Mais je sens qu'il y a vraiment une solitude chez elle. Il y a des choses, peut-être des frustrations, parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas fait dans sa vie parce qu'elle était mariée. Et c'est vrai que c'est une bonne personne. Et on ne veut pas non plus mettre un gros blâme sur tous les inconvertis, les maris inconvertis. Il y en a qui sont gentils et bien, des bons hommes. Mais ça amène un affadissement de notre foi, des frustrations, des privations. Aussi, on est bridé parce que on voudrait participer à telle retraite. On peut pas. Il y a une nuit de prière, on peut pas y aller. Il y a tel événement qui se produit en église, je peux pas y aller parce que mon mari, il faut que je m'en occupe. Et c'est légitime, mais on est obligé de faire des compromis qu'on aurait normalement pas à faire si on était marié avec un chrétien. Je dis bien normalement parce que des fois aussi, dans un couple chrétien, il y a un gros déphasage dans l'engagement. Il y a des couples chrétiens où le mari, par exemple, est très léger dans sa foi et la femme est très affermie. Donc, je veux pas non plus généraliser, mais ça peut arriver. Puis, dans les couples aussi croyants croyantes et incroyants, on a aussi des gens... des femmes qui se sont délibérément mariées avec un inconverti en sachant à quoi elles s'exposaient. On leur a dit, on les a averties et ça tourne mal. Et oui, on en a vu aussi qui tournaient leur veste et au bout de quelques même mois de mariage, laissent tomber. On a tout vu. C'est pour ça qu'on ne peut jamais prendre pour acquis. On ne peut jamais dire ça va bien se passer ou ça va mal se passer. De toute façon, un couple qui soit mixte, entre guillemets, croyant, incroyant ou chrétien, il faut le construire. Il faut l'entretenir et il faut le nourrir. Mais ce que j'ai vu, par contre, c'est que vraiment les femmes mariées avec des incroyants, elles ont des défis
que les autres n'ont pas parfois.
Tellement particuliers que les autres n'auront jamais. C'est dommage.
Oui, parce que la vie chrétienne, il y a déjà assez de défis.
Ah, ça.
Tu dis, tu peux t'épargner certains combats dans la vie. Et celui-là, c'est un combat que tu peux t'épargner. Il y a un combat peut-être au début avec ta chair pour renoncer peut-être à cet homme parce que tu as des sentiments, etc. Mais après, franchement, c'est pas juste là l'histoire du moment, de mes sentiments, c'est l'histoire d'une vie complète à construire. Et bon, aussi, il y a des femmes qui, en cours de route, rencontrent le Seigneur. Donc là, le cas de figure est totalement différent. C'est peut-être d'autant plus difficile à la fois pour la femme et à la fois pour le mari parce que la femme change radicalement. Et c'est un changement qui est rapide, qui n'était pas prévu. Et le mari se retrouve avec une femme qu'il ne connaît pas.
C'est
une femme qu'il n'aime pas non plus. J'aime pas commenter. C'est pas comme ça que je t'ai connue. Et ça peut être très douloureux. Mais dans ces cas-là, aussi, comment aider ces femmes qui rencontrent le Seigneur en cours de route à prier efficacement pour leur mari?
C'est ça qu'il faut faire. Il faut prier. Je disais, il faut faire attention attention à son témoignage, il faut être équilibré, mais il faut aussi prier. Il faut aussi prier. Il y a une façon de prier pour la conversion de quelqu'un. Le pasteur Yonggi Cho explique comment une femme priait pour sa fille. Au départ, en fait, quand elle parlait de sa fille, elle disait cette païenne, cette prostituée, cela, et elle disait des choses comme ça au sujet de sa fille. Et le pasteur Yonggi Cho lui a dit, mais en fait, il faut que tu changes l'image que tu as de ta fille. Il faut que tu commences à te construire une image d'une fille chrétienne remplie du Saint-Esprit pour que tu puisses prier correctement et demander avec exactitude ce que tu veux. Et parfois, il faut réussir à avoir dans son cœur l'image d'un mari converti. Quand tu pries, moi je crois, tu dois avoir la foi et t'imaginer en train de faire des cultes familiaux avec lui, aller avec lui à l'église. Et quand tu vois ça, tu déclares, tu parles, tu dis, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, je m'assois sur cette parole et je déclare que mon mari va se convertir. Tu as aussi dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon mari fait partie de ma famille aujourd'hui, Seigneur, je m'assois sur cette promesse. Tu as promis me sauver, mais sauver aussi ma famille. Je le crois, je le déclare, et j'ai la foi. Et peut-être même dire aussi au mari de temps en temps, tu sais quoi, moi je crois que tu seras un homme de Dieu. Il va rigoler, il va peut-être rigoler, il va faire passer ça dans l'humour, mais c'est important aussi. C'est important de lui montrer qu'en fait, tu ne le vois pas que comme le païen de la maison. Voilà, et toi la sainte avec les enfants, vous allez à l'église, et le païen...
Je suis encouragée que ceux qui m'écoutent, il y a des femmes comme ça qui se retrouvent dans des mariages parce qu'elles se sont converties après avoir rencontré l'homme de leur vie, puis c'est pas facile. J'ai un témoignage familial, c'est les grands-parents de mon mari, la mamie était pas convertie, et elle a jamais été chrétienne de toute la vie du grand-père. Et le grand-père était un homme de Dieu, très engagé dans l'église, il priait, il était très engagé, il avait des responsabilités dans l'église. Mais il priait, il voulait que sa femme vienne au Seigneur. Puis même, il était un petit peu trop, il poussait un peu trop. Mais elle, bon, elle était bienveillante, elle venait de temps en temps à l'église, elle suivait quand même, bienveillante, mais elle ne s'engageait pas. Et du jour où le grand-père est décédé, elle s'est fait baptiser. Donc, je veux dire, les prières ne sont pas vaines.
Amen.
Et il faut garder
persévérer.
Persévérer et surtout ne pas pousser, mais... J'allais dire pousser dans la prière, mais pas dans les paroles.
Voilà, ne pas brutaliser.
On doit mener une vie de prière, mais quand on est marié avec
un inconverti,
moi, le peu de personnes que je connais dans ces cas-là, c'est comme une vie de prière non-stop, mais vraiment pour ton mari, pour ton mariage. Parce que c'est vrai que les situations par lesquelles ces personnes passent sont quand même des situations difficiles. Et là, c'est comme si... on s'est engagé sur ce chemin-là où on est toujours dans le combat. Et il faut, moi, je pense aussi vraiment prendre conscience que Dieu va le faire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir. Parce qu'il y a des cas aussi qui ont vraiment bien marché où le monsieur, et moi, je connais un couple comme ça, où la femme était vraiment engagée, mais le monsieur n'était pas du tout... dedans, mais aujourd'hui, c'est comme l'homme, il a dépassé sa femme, il est loin dans le Seigneur et tout, mais la femme vraiment s'occupait de son mari, vraiment, mais elle venait aussi à l'église, elle priait pour son mari, elle n'a pas caché sa situation, et puis elle priait pour ça, et aujourd'hui dans l'église, vraiment, son mari, il est demandant
c'est loin, ça parce que
il enseigne, il fait des, c'est il prêche et tout, mais c'est vraiment prier et voir la main de Dieu, voir que Dieu va agir, voir qu'il va le faire, malgré ce qu'on peut vivre, séance tenante, mais vraiment voir que Dieu va faire la bonne chose au bon moment.
C'est ça, parce que le but ultime, c'est pas juste de survivre à être marié à un inconverti, c'est tout de même de gagner son mari
est converti
à Christ. Donc, je pense vraiment notre attitude, la manière dont on va aimer le mari qui est pas encore au Seigneur, la manière. Je pense vraiment ça, c'est une question de, c'est personnel. Et je pense que c'est là où le Saint-Esprit a besoin d'inspirer chaque femme, si vous êtes dans cette situation-là, que l'Esprit de Dieu vous inspire et demandez à l'Esprit de Dieu de quelle manière vous pouvez agir pour pas irriter votre mari, mais plutôt l'amener à aimer le Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. On dira pas aux femmes d'arrêter aimer Dieu, mais en aimant Dieu, comment on peut faire pour pas hériter et vraiment peut-être semer l'amour de Dieu dans le cœur de la personne.
Je me souviens du témoignage d'un de mes pasteurs quand j'étais jeune chrétienne, et il avait dit que sa maman s'était convertie et ils avaient vu un tel changement dans la maman, parce qu'avant c'était une maman un peu triste qui passait beaucoup de temps à pleurer, rentrer de l'école, la maman avait les yeux rouges. Du jour où elle a connu Jésus-Christ, elle a été complètement transformée. Mmh. Elle était joyeuse, elle travaillait dans la maison avec le sourire, elle était encourageante. Et en fait, j'allais dire, plus que les paroles qu'on peut dire, c'est l'attitude. Amen. Et ouais. Quand dans la famille, on voit que la maman est transformée, parce que le fait qu'elle ait rencontré Jésus-Christ, ça a tout transformé. Mmh. Elle avait peut-être une langue de vipère avant, maintenant, elle a des paroles douces et des paroles bénissantes. Mmh. Peut-être qu'elle était triste et qu'elle pleurait, maintenant elle est joyeuse. Les gens le voient, les enfants le voient, le mari le voit. Mmh. Et le changement d'attitude doit parler plus fort que nos paroles. Mmh. Je pense que l'erreur à faire quand on est, l'erreur à ne pas faire quand on est marié avec un inconverti, c'est justement de le harceler de paroles. Mmh. Mais ça aura beaucoup plus d'impact si on manifeste le fruit de l'esprit. Qu'on manifeste dans nos actes, dans notre humeur, dans nos paroles, qu'on ait vraiment de la grâce. Il faut pas oublier que, si on est aux côtés de cet homme, le Seigneur, il le savait, quand on est venu à lui. Et c'est pas un hasard. Et je pense qu'il y a vraiment notre premier ministère, c'est de s'occuper de notre mari. Ces femmes-là, si elles se dévouent à s'occuper de leur mari d'une manière exemplaire, il y aura du fruit. Mmh. Si par contre, elle se laisse aller à critiquer les gens de l'église, à ronchonner quand il faut aller à l'église, il y en a, hein, ça. Et puis le mari va dire, c'est ça ton église, ça ne donne pas envie d'y aller. Et là, elles vont saper tout le travail. Fait que j'allais dire, il y a une pression qui est sur les femmes converties, qui sont mariées à un inconverti, beaucoup plus forte que sur les autres, parce que j'allais dire, elles n'ont pas le droit à la faiblesse. Parce que leur force est en Christ, et il faut qu'elles affichent vraiment devant leur mari une attitude exemplaire.
J'ai vu rarement des femmes qui critiquent l'Église, qui critiquent le pasteur dans leur foyer. J'ai vu rarement, difficilement, les maris inconvertis donner leur vie à Jésus. Parce que du coup, en fait, vous prêchez une chose et son contraire. Mm-hmm. Vous lui demandez de donner sa vie à Jésus. Il se dit, mais si je donne ma vie à Jésus, je vais venir dans cette Église. Je vais venir dans ton Église. Et comment est-ce que je vais venir dans une église où il y a tel problème, tel souci, tel truc? Et elles ne se rendent pas compte qu'en le faisant, en fait, elles détruisent tout le travail d'évangélisation.
Il ne faut pas salir le témoignage du pasteur et de l'église et de...
Ouais. Même du royaume de Dieu.
Du royaume, exact.
C'est ça. Exactement.
Et moi, je peux juste donner un exemple, parce que dans les cas comme ça, ce qu'on remarque aussi, c'est que les personnes qui ont... La femme qui a accepté le Seigneur, mais il y a des choses qu'elle ne supporte plus. Peut-être qu'elle va plus supporter que son mari aille faire les bas, etc. Et ça va changer un peu son attitude. Et il y a un pasteur comme ça que je connais aujourd'hui qui avait dit que sa femme avait accepté le Seigneur avant lui. Et lui, il aimait vraiment beaucoup l'alcool. Et il buvait de l'alcool et tout. Mais quand il demandait à sa femme ne disait pas non. Mais sa femme, avant de lui donner ça, elle priait que Seigneur, c'est toi qui peux le dégoûter de cette addiction et tout. Amen. Donc, je lui donne ça, mais Seigneur, fais grâce. Et c'est comme ça que vraiment son mari a été libéré aussi de toutes ces choses-là. Donc, parfois, la chose qu'il fait peut énerver, dégoûter, mais il faut vraiment demander, comme Mathis disait, la sagesse de Dieu pour aller, pour servir son mari et rester sa femme dans ces temps-là.
La sagesse, et puis je pense qu'il faut vraiment cultiver en fait l'amour qu'on a pour notre mari, même s'il n'est pas converti. Et vraiment, principalement pour les femmes qui ont rencontré le Seigneur en cours de route, c'est une grâce d'avoir rencontré le Seigneur. Et c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et il y a des femmes, elles se disent, est-ce que finalement ça valait la peine? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement de tourments, tellement de tracas, mais dans le fait d'avoir rencontré le Seigneur, il y a aussi un amour surnaturel qui a été déposé en nous, qui nous et une grâce qui nous permet de pouvoir passer à travers ces choses. Mais je pense que je veux encourager les femmes à vraiment prendre la décision de cultiver cet amour envers leur mari qui n'est pas encore sauvé. La Bible nous dit que c'est par la conduite que certains ont été gagnés et que quand tu disais l'histoire de cette femme avec le pasteur Yong Gi Cho, c'est la même chose, c'est d'avoir cette image et d'aimer, vraiment d'aimer, ne pas dans ta pensée te dire tout le temps, mais cet homme, il est ceci, cet homme, il est cela, parce que même si t'essayes d'être une bonne femme, t'as ressassé ça toute la journée. Ben, c'est sûr qu'il sent inimité, là. Oui, oui, inimité entre avant même que t'aies parlé. Alors, si t'as cultivé cet amour, ben, il y a vraiment un amour surnaturel qui va se manifester, qui sera même supérieur au premier amour qui était là. Et c'est sûr que, on met toutes les chances de notre côté dans ce.
Il faut comprendre que certains inconvertis développent un complexe à l'égard de ceux qui sont convertis.
Ah, oui. Ah ben, ça, c'est
parce que, voilà, ils ont le complexe de la sainteté, de l'autre dont toi tu te sens saint, toi, machin, et ça peut être ça peut aussi être un frein, un blocage. Et c'est important de ne pas nourrir ce sentiment là que lui c'est le super grand pécheur et toi c'est la sainte de la maison.
Et puis même pour terminer, pour rebondir sur ce que dit pasteur Alain Patrick, au niveau des églises, quand on est, il y a un couple avec une croyante et un inconverti ou vice versa. En tant qu'église, on doit accueillir le conjoint non-croyant les bras ouverts. Amen. Parce que moi, j'ai connu des situations où ils étaient accueillis comme des punaises à écraser.
Oh là là.
Donc, on doit les accueillir, leur témoigner de l'amour parce que c'est des âmes à amener à Christ.
Amen.
Et des fois, la femme est exemplaire, mais l'église l'accueille mal, le conjoint. Et cette personne se sent mise de côté.
Ben oui, c'est vrai.
Des fois, toisée, méprisée parce que il fait pas partie, c'est des super saints. Et il faut vraiment faire attention à notre attitude, c'est pas des punaises à écraser, c'est des âmes à gagner à Christ, qu'on doit manifester de l'amour.
Et de les accueillir même s'ils ne sont pas là par leur présence. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, on invite la famille,
un barbecue.
C'est comme on inclut, on essaye d'inclure ce mari dans des activités extra-église parce que c'est oui, on t'aime ma sœur, mais on aime aussi ton mari, donc viens. Et comme ça peut créer aussi ce lien plutôt que tu vis ta vie chrétienne de ton côté et puis il y a la maison. En tout cas, vraiment merci beaucoup, pasteur Alain, d'être venu. Comme tu l'as dit, je sais plus quand, hier, aujourd'hui, tu vas faire un effort pour venir nous voir.
Oui, je vais faire un effort. J'en fais la promesse.
Et merci.
Oh, engagé.
Ah oui, je vais.
Attention, hein, c'est noté.
Non, je vais venir.
Amen.
Ça ok. Plaisir.
C'est vrai.
Enregistré.
Vous êtes mes amis.
C'est bon. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir Jeanne. Jeanne. Femme de l'intendant, femme de Souza, qui a été finalement, qui peut être une inspiration. C'est possible de servir Jésus, de servir dans un ministère, même lorsque notre mari n'est pas encore sauvé. Il y a des solutions et on peut vivre une vie chrétienne, mais ça demande de la sagesse. Amen. Et puis ça demande aussi une vraie relation, une vraie intimité avec le Seigneur, parce qu'on a vraiment besoin d'être ressourcé continuellement. Donc, comme je disais, vraiment, merci beaucoup. On te souhaite un bon retour à Paris ou ailleurs dans une de tes multiples églises.
Amen.
Et on espère donc te revoir très bientôt. Merci à vous les filles d'avoir été là avec nous toute la semaine et à vous tous et vous toutes qui nous avez suivis. À très bientôt.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.